quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous, c'est le 22 avril 2026, 22 avril, le jour de la Terre, jour qui a été célébré pour la toute première fois le 22 avril 1970, donc ça fait déjà 56 ans. Et aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes dans 193 pays passent à l'action chaque année dans le cadre du jour de la Terre. Au fil des ans, cet événement est devenu le mouvement participatif en environnement le plus important de la planète. Et j'ajouterais que être respectueux de l'environnement, c'est se respecter soi-même. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, Daniel. Daniel Lachance, oui. C'est une voix reconnaissable entre toutes qu'on entend au moins une fois par mois,
oui,
sur nos ondes.
Oui, d'ailleurs, j'avais oublié ce matin que c'était le jour de la Terre, mais je suis quand même venu ici en transport en commun. Ah. Mon véhicule est resté dans l'entrée de la maison. Il n'a pas bougé.
Déjà, c'est un très bon geste.
C'est sûr que j'avais pas le choix, là, mais bon.
Oui, mais quand même.
Ça compte.
C'est environnemental comme geste. Alors, Daniel, aujourd'hui, vous allez rendre hommage à Neil Sedaka.
Monsieur Neil Sedaka, est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose?
Ben, certainement.
Bon, ben, j'ai probablement...
Je suis pas né de la dernière pluie.
Oui, mais il y a probablement plein de monde pour qui oui. C'est un petit peu inconnu comme nom, parce qu'il a eu une bonne carrière à ses débuts, mais après ça, il a écrit des chansons pour d'autres personnes. Donc, on va regarder un petit peu l'ensemble de sa carrière musicale et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant.
Oui.
Moi, j'ai découvert des choses. Je connaissais le nom, mais j'ai découvert beaucoup de choses en fouillant là-dedans.
Bonne idée. Merci, Daniel. Je salue l'ami Mathieu Tessier.
Bonjour, Hélène. Bonjour tout le monde.
Bonjour de la Terre.
Oui, moi, ça me dit rien, ce nom-là.
Bon, tu vois.
Peut-être que sa musique, oui, mais de nom,
oui,
ça me dit
rien. Vous êtes trop jeune.
Donc, voilà. J'ai une mission aujourd'hui.
Exactement.
Je vais t'instruire un peu.
Oui. Je vais la prendre personnelle.
Aujourd'hui, bon, il y aura la chronique avec Daniel et on parlera aussi avec Willows, l'une des artistes participantes au projet qui se nomme Nikamu Mamuitoun, responsable d'un album, d'un spectacle qui aura lieu entre autres au Théâtre Outremont dès demain. Et le projet favorise le dialogue interculturel à travers la création artistique en faisant rayonner les musiques autochtones et allochtones actuelles. On aura la chance d'entendre au moins une chanson interprétée par Willows qui est qui vient du Manitoba, de Rivière-Rouge, pour être plus précise. Alors, j'ai bien hâte de lui parler autour de 10h30. Des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. Au menu du jour, Daniel est là. Et je pense... Ah oui, Marie-Thérèse Fortin, franchement, comment pourrais-je l'oublier? Elle sera avec nous dans la première demi-heure pour parler du spectacle « Après, on va où? » de Michel Rivard, qu'elle met en scène.
Est-ce qu'on parle encore de pacte? On s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos ombres, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des basses qui résonnent dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole.
C'est la nuit sous la tension. T'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris la pelle et puis après. Crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit, c'est la deux. Mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. Assez, two glasses full of moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classiques qu'on est sous le charme. And baby that's all I need.
C'était Dans la nuit, une chanson de Cœur de pirate avec Loud.
À la une du Devoir, on voit Christine Fréchette en face de son nouveau super ministre, Bernard Drainville. La nouvelle première ministre du Québec a présenté mardi un conseil des ministres formé de 29 ministres. On compte 17 hommes et 12 femmes. Bernard Drainville, rival de Christine Fréchette dans la course à la direction de la Coalition Avenir Québec, est devenu ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la stratégie maritime. Jour de la Terre, on en parle à la une du Devoir. La transition demeure la solution. C'est Alexandre Shields qui écrit « Les scientifiques et les écologistes, bien au fait des causes et des conséquences du réchauffement planétaire, s'inquiètent de plus en plus des reculs, des retards et des discours contradictoires de nos gouvernements face au dérèglement du climat. Les faits sont toutefois incontestables, affirme-t-il, en ce jour de la Terre. Quel que soit le contexte international, lutter de façon ambitieuse contre cette crise est essentiel pour protéger les populations et nos économies. C'est clair que ça ne va pas bien. Nous sommes dans une période où on remet en question des moyens pour lutter contre le changement climatique, constate Alain Bourque, directeur général du consortium de recherche Ouranos sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. Les progrès sont laborieux depuis déjà quelques décennies, avec des périodes qui semblaient plus propices à l'action climatique, mais même lors des périodes plus propices, pour la majorité des scientifiques, les actions demeuraient insuffisante, ajoute-t-il. Il y a aussi des moments, comme à l'heure actuelle avec les crises internationales, où on revient à des enjeux à très court terme. Comment parler de la fin du monde quand les gens pensent à la fin du mois? À la une du Journal de Montréal, c'est une préoccupation. Le Canadien qui va pas bien. Non, faut pas exagérer quand même. Mais ils m'ont fait coucher tard hier. Daniel, êtes-vous un amateur? Je pense pas, hein?
Pas du tout.
Non, pas du tout. Moi, je suis pas entourée d'amateurs de hockey non. Du tout ici à Canalem. Et moi, j'étais rivée devant mon petit écran hier pour regarder ce match en croisant les doigts comme bien des gens qui prennent pour les Canadiens de Montréal. Mais en prolongation, les joueurs du Lightning ont compté le but victorieux, dis-je bien. C'est J.J. Moser qui a compté en prolongation pour un compte de 3-2 pour les Lightning de Tampa Bay. On repart à zéro, c'est écrit en grosses lettres à la une du Journal de Montréal. Un conseil un peu ennuyeux, pas assez pour reconquérir les Québécois. On parle ici du premier cabinet Fréchette, les gagnants, perdants, frustrés ou sacrifiés. Il en est question partout aujourd'hui dans les journaux montréalais québécois. Et puis à la une de la presse plus... Ça chauffe, on parle du Canadien. Série 2026, Canadien 2, Lightning 3. Le Lightning crée l'égalité, mais c'est loin d'être terminé. Cette série à haute intensité reprend à Montréal vendredi. Cabinet Fréchette, l'unité avec des options limitées. Des mains tendues à Bernard Drainville et à des élus qui l'ont appuyé dans la course à la direction de la CAQ. De nouveaux visages, dont certains provenant des régions, des vétérans qui restent en selle, d'autres qui sont évincés. La première ministre Christine Fréchette a présenté mardi son premier conseil des ministres. Christine Fréchette veut insuffler un souffle nouveau au gouvernement de la Coalition Avenir Québec avec son premier conseil des ministres. Elle promet d'améliorer l'efficacité de l'État dans toutes ses missions à quelques mois d'une élection où son parti joue sa survie. Et puis, autre titre à la une de la presse plus, des villes du Québec passent à l'action en ce jour de la Terre. C'est le titre qu'on peut lire à la une de la presse également. La presse qui a parcouru la province à la recherche d'exemples inspirants. Une serre avant-gardiste à Victoriaville, des autobus gratuits à Rouyn-Noranda, un corridor écologique à Nicolette. Des municipalités du Québec s'engagent pour le climat et la biodiversité à l'occasion du Jour de la Terre. Nos journalistes ont parcouru la province à la recherche d'exemples inspirants. C'est un dossier d'Éric-Pierre Champagne et de Valérie Simard. Et dans la section Affaires, on parle des enseignes d'ici qui chauffent Walmart, fermeture de 3 magasins de plus en plus présentes dans le paysage montréalais. Les enseignes arabais comme Maxi et Super C donnent du fil à retordre aux géants américains, à tel point que ce dernier a récemment annoncé la fermeture de 3 succursales. Et je voulais aussi vous parler d'un faux magasin, du magasinage écolo-imaginaire. Le site de magasinage en ligne fictif imaginaire a l'apparence d'un site commercial ordinaire. Acheter la dernière tendance, du neuf, mais à quel prix pour la survie de la planète? À travers un site qui a tout l'air d'une plateforme de magasinage en ligne, l'organisme Jour de la Terre Canada invite en avril les internautes à profiter d'un supposé rabais de 50 % sur certains articles. Il faut se dépêcher, les aubaines s'envolent vite avec le code promo Dopamine qui confère un rabais additionnel de 10 % Le site conçu et mis en ligne par l'organisme de sensibilisation aux enjeux environnementaux se nomme Imaginaire, sans E à la fin. Il est bluffant de réalité et d'humour. Il incite le consommateur à se procurer rapidement le dernier modèle de basket en toile jaune, puisqu'il n'en resterait que 3 exemplaires en stock. En cliquant sur le produit, on découvre la phrase « La planète prend en feu, courez ».
L'homme qui me ressemble n'est pas tout à fait moi. Il a pris mon allure, il a mis mon armure, il a pris mon âge et ma voix. Il a fouillé tous mes souvenirs, les pires comme les meilleurs. Mes doutes et mes redoutes, mes joies et mes bonheurs, il me connaît par cœur. Il a joué sa vie sur les mêmes trottoirs. Et son cœur a rougi pour les mêmes histoires d'amour, pour les mêmes émois. L'homme qui me ressemble n'est pas moi. Son demi-sommeil, il tourne et se retourne dans ce terrain vague entre le rêve et le réveil. Les revenantes, les revenants, les spectres du matin lui bourdonnent à l'oreille comme un essaim d'abeille tous les reproches, tous les regrets. Mais quand le jour se pointe, que le temps reprend son cours, l'homme qui me ressemble retombe en amour. À la maison qui s'éveille, l'odeur du café, la femme qui sommeille et bientôt va se lever. 3 notes brèves, c'est le chant d'un oiseau, la lumière d'avril, les bruits de la ville, un souffle nouveau. Qu'avons-nous perdu, qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous fait de mieux dans cette vie que d'y croire encore?
L'homme qui me ressemble, une chanson tirée du plus récent album de Michel Rivard intitulé « Après, on va où? » qui est aussi le titre de son nouveau spectacle présenté au Centre du Théâtre d'aujourd'hui, à la salle Michel Rossignol, la plus grande salle du Centre du Théâtre d'aujourd'hui, à compter du 28 avril et ce jusqu'au 9 mai. Et puis par la suite, Michel Rivard va sillonner avec ses musiciens les routes du Québec. Il ira même faire un tour à Moncton. On vous donnera quelques dates à la fin de cette entrevue que je fais avec grand plaisir avec la comédienne comédienne Marie-Thérèse Fortin, qui signe la mise en scène du spectacle. Bonjour Marie-Thérèse Fortin.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. Marie-Thérèse, vous qui êtes pas mal occupée, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans ce projet aux côtés de Michel Rivard?
Ben, ça a été une surprise parce que, Michel, au départ, avait demandé à sa conjointe de me demander si j'avais des idées de nom pour de metteur en scène qui pourrait travailler avec lui pour après on va où. Alors je lui avais donné trois noms de garçons que je trouvais talentueux qui pouvaient faire ça, et là Michel m'a appelé, il m'a dit mais toi ça te tente pas?
Ah oui.
oui vraiment, puis j'ai dit hein? Ah mon Dieu, ah. Alors j'avais pas pensé qu'il pouvait avoir envie de travailler avec moi, puis bon, on se connaît un petit peu Michel et moi tout ça, j'ai dit ben oui alors c'est sûr que c'est quelque chose que je voulais vivre, travailler avec Michel Rivard. J'adore tout ce qu'il fait depuis très très longtemps. Donc on s'est rencontrés, on a commencé à travailler sur ses textes avec Alexia Burgère qui fait toute la dramaturgie, parce que il y a deux volets, hein, c'est comme le théâtre et la chanson qui se rencontrent sur scène au travers du personnage de Michel Rivard. Donc on a commencé à travailler il y a déjà plusieurs mois, puis on a parlé de tout ce que le texte recelait d'idées, d'images et tout ça, donc voilà.
L'œuvre se déploie dans une salle d'attente, pourquoi?
Oui, alors au départ, avec les chansons, tu sais, tout ce que le texte évoquait, je disais, c'est comme une salle d'attente, c'est-à-dire que, donc, le spectacle aborde la question de ce qui nous pantouche au bout du nez, c'est-à-dire comment ça va se finir,
ouais,
un jour.
D'où le titre, après, on va où?
Oui, exactement. Ouais. Et où est-ce qu'on va après? Donc, ces questions-là, bon, sans faire le centre de notre vie de tous les jours, mais c'est quand même des questions qui planent pour tout le monde dans leur tête.
C'est sûr.
Et Michel aborde ça de façon avec la fantaisie, l'humour, mais aussi la profondeur qui lui est propre. Hein. La chanson qu'on vient d'entendre évoque ça, bien sûr. J'ai dit, ben c'est ça, on est tous un peu dans une salle d'attente. Il n'y a pas un endroit au monde, je pense, où on est tous, où c'est très, très démocratique. Je dirais, assis dans une salle d'attente, on est tous au même niveau.
Oui. Dans la salle d'attente de la vie, on veut attendre plus que
oui,
dans la salle d'attente quand on est à l'urgence, disons.
Exactement. On se dit, bon, ben, voyons, va-t-il se passer quelque chose? Puis des fois, ben, on se dit, ouais, ben, j'ai autre chose à faire en attendant. Et donc, je trouvais que c'était un endroit propice pour aborder cette question-là. C'est-à-dire que oui, quelque part, on est toujours un peu en attente, mais c'est là aussi que les idées, la pensée, on se met à penser à notre vie, aux gens qu'on aime, à ce qu'on a fait, à ce qu'on a réalisé, à ce qu'on voudrait encore réaliser, à ce qui nous attend et tout ça. Donc, je trouvais que le lieu de la salle d'attente était parfait pour ça. Et il y a la présence des musiciens sur scène qui sont là pour soutenir un peu les... C'est comme si Michel partait dans sa tête, en fait. Je dis toujours que j'ai eu l'impression de faire la mise en scène du film dans la tête de Michel Rivard.
Ah, donc, oui, OK. Ça aurait pu s'intituler comme ça.
Oui, aussi. Et donc, pendant ce temps où il attend, il y a des idées qui surgissent, il y a des personnages qui apparaissent, il y a des questions qui viennent le tenailler puis qui partagent avec le public dans le spectacle.
Donc, on voit le Michel Rivard comédien, mais aussi chanteur, poète. Ce sont toutes les facettes de Michel Rivard qui sont montrées dans ce spectacle-là?
Oui, exactement. Tout ce qui sait faire très bien, l'immense guitariste qu'il est aussi.
Oui.
Et donc...
L'excellent conteur...
Alors, avec un humour,
ah oui,
une fantaisie, c'est un... Je dis toujours, c'est un petit côté clown triste.
Oui, un pince sans rire aussi. Hein?
Exactement. Puis, qui a un sens de l'observation du monde et des gens qui est très, très, très fin, très, très drôle. Et on s'est amusé à montrer ça, à s'amuser à provoquer ça même chez lui pour notre plus grand plaisir. Donc, c'est vraiment, je pense que ça va être des retrouvailles avec Michel dans tout l'étendue de son immense talent. Et les chansons sont d'une beauté. Il y en a plusieurs qui me serrent la gorge.
Ah oui.
Et puis d'autres qui me font beaucoup, beaucoup rire. Donc, voilà. Est-ce et que... les trois musiciens sont superbes.
Trois musiciens. Est-ce que vous avez les noms en tête?
Alors, il y a Blanche Baillargeon. Ah alors oui. Là, il y en a que je vais oublier. Il y a Francis Richard. Et le troisième, excusez-moi.
Ah, Guillaume Bourque et François
oui,
Richard.
Voilà.
Ouais.
Voilà, Guillaume Bourque, merci.
Ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Et dans le répertoire qu'il va présenter dans ce nouveau spectacle-là, est-ce que ce sont surtout les chansons de son plus récent album qui sont mises de l'avant ou oui. Il va avoir aussi des chansons, je ne sais pas, tirées de son répertoire de l'époque de Beau Dommage ou de ses albums en solo?
Non, je pense que c'est vraiment autour de l'album d'Après on va où, ses nouvelles chansons. Puis je pense qu'il a vraiment voulu faire une espèce de, comment je dirais, de
spectacle concept.
Oui, c'est ça. C'est un parcours de vraiment de tout ce qui, parce que les chansons recèlent aussi toutes les choses qu'il questionne, qu'il a voulu aborder. Et ce qui est assez important aussi, c'est que il va avoir des projections sur scène, la vidéo, tout ça. Et on a puisé dans des photos que Michel a prises, parce qu'il aime beaucoup faire de la photographie.
Oui, c'est vrai.
Pendant ses temps perdus, il a fait un livre là-dessus, un album. Et donc, on utilise des photos parce qu'elles viennent un peu nous renseigner sur sa sensibilité, mais aussi ses idées furtives qui des fois surgissent, puis on ne sait pas pourquoi, puis qui nous font penser à quelque chose, puis qui nous font, dans le cas de Michel, écrire des chansons, il faut bien le dire.
Est-ce que Marie-Thérèse Fortin, de faire la mise en scène pour ce grand artiste, vous a donné envie d'en faire pour d'autres?
Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez, moi, je me laisse beaucoup porter par les événements.
Oui.
Dans ce cas-ci, quand Michel m'a demandé, je me suis dit, je peux pas dire non, j'avais trop envie de le rencontrer dans un contexte comme celui-là. C'était comme un cadeau du ciel. Donc, je sais pas. On va voir. Ce premier volet, c'est de la création. Hein? On avance un peu à tâtons, on fait les choses, ça nous semble juste, et puis après, on regarde. Mais quand le public va débarquer dans la salle, on va être renseigné, on va avoir le regard de ceux qui connaissent Michel depuis toujours, qui le suivent depuis toujours, et puis les nouveaux venus aussi qui vont venir découvrir le grand Michel Rivard. Donc, on verra. Mais c'est sûr que je me suis beaucoup amusée et j'ai beaucoup apprécié cette rencontre-là avec Michel.
Quand les choses se font dans le plaisir, habituellement, c'est très bon signe.
C'est ça qu'il faut se dire. Puis l'équipe, toute l'équipe qui entoure les productions Fauve et tout ça sont tellement fantastiques. Ça a été vraiment un vrai bonheur.
Et Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous aimeriez que le public emporte avec lui après avoir vu Après, on va où?
Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une espèce de... C'est un mélange de... Je dirais de profondeur, mais aussi de joie de vivre. C'est-à-dire que au fond... on peut se poser ces questions-là, c'est tout à fait sain et normal.
Ouais.
Mais il faut saisir, il faut carpe diem, il faut saisir ce qui nous est donné, le temps qui nous reste, en profiter au maximum, prendre soin des gens qui nous entourent.
C'est votre philosophie de vie aussi?
Oui, il faut embrasser la vie puis prendre soin des gens qui sont autour de nous. Je pense que c'est très important. Et même ceux qu'on connaît pas. Je pense qu'on peut prendre soin les uns des autres de façon collective et d'être soucieux de ça. Par les temps qui courent, c'est la meilleure chose à faire, il me semble.
C'est drôle que vous dites ça parce qu'il y a quelques années, j'allais animer une rencontre d'autrice avec Nathalie Petrovski. J'étais très, très énervée. J'avais laissé mes lunettes sur un banc de métro. Et puis, quand j'ai couru pour aller chercher ces lunettes-là, vous étiez là, vous vous apprêtiez à les prendre pour aller les porter aux objets perdus. En tout cas, moi, je me souviens de
ça. C'est vrai?
Oui, alors vous ne me connaissiez pas, mais vous avez été bienveillante envers moi.
Oh mon Dieu, ça c'est drôle. Ah ben écoutez, parce que moi, j'en ai perdu des lunettes dans mes pots, donc...
Et puis,
c'est pour ça que j'étais attentive.
Oui, parce que c'est un bonheur de les retrouver, surtout quand on les a payés très cher et qu'on les aime.
Oui.
Alors,
oui,
Marie-Thérèse Fortin, à part de faire la mise en scène pour le spectacle de Michel Rivard, le travail est accompli. Là. La première va avoir lieu le 28 avril. Est-ce que vous allez pouvoir être dans la salle? Parce que je sais que vous êtes à la licorne par les temps qui courent dans Fanny.
Oui, oui. Eh bien, je vais être là pour les premières représentations parce qu'on a organisé l'horaire avec la Licorne pour que je puisse être là pour les premières représentations. Ils ont été très généreux. Et donc, oui, je suis là pour toutes les premières. Et puis après ça, je vais sûrement le rattraper quand tu vas être en tournée pas trop loin de Montréal.
Oui, parce qu'il va se promener beaucoup, là.
Oui.
Au Centre du théâtre d'aujourd'hui, du 28 avril au 9 mai. Ensuite, à Québec, au Grand Théâtre de Québec, du 20 au 24 mai. Il va sillonner les routes du Québec, là, Gatineau, Terrebonne, Moncton aussi, Caraquet, Edmondston, Sainte-Agathe-des-Monts. Et ça se poursuit comme ça jusqu'à la fin du mois de mai 2027. MichelRivard.ca pour avoir toutes les dates. Ça prend beaucoup d'énergie là pour faire tout ce voyage là et présenter un spectacle aussi demandant, j'imagine là.
Oui, ben il est très en forme et
ça prend ça.
Il est heureux quand il est sur scène avec ses musiciens.
Ouais.
Et je pense qu'il a hâte de partager ses chansons avec les gens aussi.
Mais on a bien hâte d'assister à ce spectacle-là. Et je peux vous dire aussi que vous êtes excellente dans votre rôle dans Fanny. Finalement, c'est vous qui vous appelez Fanny. J'étais là la semaine dernière pour apprécier votre talent, entre autres choses.
Ah, c'est très gentil. Je vous remercie.
Et puis, qu'est-ce qui vous attend après?
Eh bien, là, il y a des tournages qui vont commencer dont je peux pas vraiment parler parce que rien n'a été annoncé. Et puis, je vais être au théâtre la saison prochaine chez Duceppe. Ça a été annoncé dans une pièce d'Olivier Kemed qui devrait commencer après Noël, en fait. Et puis, pour le moment, c'est ça. Donc, il y a aussi le Festival international de littérature auquel je vais participer, mais là aussi, les annonces sont pas encore faites. Mais en tout cas, tout va bien.
Super.
Les projets sont là. Je suis très heureuse.
Et je sais que vous avez chanté Barbara. Est-ce qu'il y a eu un projet de chanson dans l'air ou...
J'y songe souvent. J'ai des gens qui me disent que tu devrais, mais tout ça, mais j'y réfléchis. C'est quelque chose auquel j'aimerais peut-être faire d'abord un album parce que j'ai jamais fait d'enregistrement des chansons de Barbara. Donc, peut-être que je commencerai par là, puis on verra.
Alors, on verra. On va vous suivre, Marie-Thérèse Fortin. Merci pour votre générosité pour cette entrevue de ce matin. Puis, on dit le mot de Cambronne pour le spectacle. Après, on va où? Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Vous aussi. De Michel Rivard, on passe à Neil Sedaka dans les prochaines secondes en compagnie de Daniel Lachance.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Feel a shiver run up my spine.
c'était donc bon, ça,
très
Daniel.
Belle chanson de Neil Sedaka qui avait été publiée en 1975, celle-là. Je vous en reparle un petit peu plus tard parce que c'est assez particulier. C'était comme un retour pour lui quand il a publié ça.
Neil Sedaka qui est mort récemment.
C'est récemment, le 27 février 2026. Donc, il venait d'avoir... il aurait eu 87 ans. Quelques semaines après, il avait 86 ans parce qu'il était né le 13 mars 1939.
Et je voulais dire, à ne pas confondre avec Neil Diamond.
Absolument, d'ailleurs...
qui, lui, a 85 ans.
Oui.
Et il est toujours vivant.
Oui, il est toujours vivant, mais qui souffre de la maladie de Parkinson.
Ouais.
Donc, peut-être qu'elle m'a vous en parler dans un jour, là, mais Neil Diamond, c'est tout un auteur-compositeur aussi. Donc, Neil Sedaka, que je connaissais pas tant que ça, finalement, quand je me suis mis à fouiller, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses. Vous allez voir dans les extraits audio tantôt, il y a des trucs qu'on reconnaît. On savait pas que c'était
lui. On l'associe pas nécessairement à Neil Sedaka.
Absolument. Et c'était...
c'est un Américain?
Oui, un Américain né à Brooklyn, à New York. C'était un auteur, compositeur, interprète et un excellent pianiste, apparemment. Et ça, au début de sa carrière, ça lui est arrivé d'être invité à des émissions de télé. Et puis, à un moment donné, il se mettait au piano, puis il jouait du Chopin ou quelque chose comme ça. Puis là, tout le monde était complètement éberlué. Il ne s'attendait pas du tout à ça, d'un petit chanteur pop. Donc, très grand talent.
Il y a des petits chanteurs pop qui sont des grands pianistes. On pense à Billy Joel, Elton John, Stevie Wonder.
Oui, parce que souvent, les carrières de chanteuses ou de chanteurs pop, c'est basé sur le fait qu'il faut vendre des disques. Mm-hmm. Donc, le producteur les dirige vers un certain style de musique pour que ça vende. Mais souvent, une grande partie de leur talent qu'on ne connaît pas, finalement. Donc, lui, son talent est arrivé, il est arrivé, j'imagine, à la naissance, comme la plupart du monde. Je ne pense pas qu'on achète ça, mais il a développé...
Ça se travaille, mais...
Oui, il l'a développé très tôt. À partir de 9 ans, il prenait des cours de piano classique. Et très jeune, il a reçu une bourse pour étudier au prestigieux Juilliard School of Music à New York. Mm. Et apparemment qu'il était très prometteur, ça avançait beaucoup.
Et là, en musique classique.
Et là, ce qui est arrivé, et ça, c'est vraiment le genre de hasard qui ne doit pas arriver des tonnes de fois dans une vie. Dans le même bloc où il demeurait, à New York, il y avait un jeune un peu plus vieux que lui, je pense que peut-être 3 ans de différence, qui lui écrivait de la poésie. Puis bon, je pense que les deux mères se connaissaient, puis à un moment donné, mon fils, il fait ci, le mien, blablabla. Donc, ils ont fait rencontrer les deux fils, qui sont devenus rapidement des très bons amis. Et l'autre, c'était M. Howard Greenfield, qui écrivait de la poésie, qui était un petit peu plus vieux. Je pense que quand ils se sont rencontrés, Howard avait 16 ans et Neil avait 13 ans. Donc, et là, Howard a commencé à essayer de convaincre Neil d'écrire des chansons. Parce que lui, écrivait de la poésie.
De composer.
Composer, puis écrire ensemble des chansons. Et Neil était très réticent au début, mais bon, c'était devenu des bons amis. Ils se sont essayés, ils ont fait des choses. Et à un moment donné, il a commencé à jouer dans...
C'est lui qui l'a dénaturé, Howard.
Ouais, le petit maudit Howard. Et voilà le résultat. On regarde ce que ça donne. Et finalement, il a commencé à jouer dans des groupes de rock'n'roll. Ça commençait, le rock'n'roll, un peu. Et de doo-wop. Vous avez déjà entendu cette expression-là, du doo-wop? Moi aussi, je me demandais souvent c'était quoi. Je sais c'est quoi, mais j'oublie. Apparemment, je suis allé voir pour être bien sûr de ne pas donner de fausses. Ça serait un sous-genre du rhythm and blues influencé par le gospel et les barbershop quartets. Méchant mélange. Quand j'en entends, je peux pas dire que je reconnais que c'est du doo-wop. Pour moi, c'est de la musique des années 50, tout simplement. Donc, et après ça, il a décidé de s'essayer en solo. Donc, avec les compositions de Howard Greenfield et lui.
C'était-tu comme son Bernie Taupin pour Elton
John? Oui, exactement. Le genre de Lennon-McCartney et de vraiment une équipe là, qui faisait des choses intéressantes. Sauf que c'est pas facile au début. Fait que là, il faut frapper à plusieurs portes. On présente des chansons, puis ça les intéresse pas. Puis il y a toujours quelque chose. Ou il y a certains producteurs qui écoutaient ça, puis ils disaient, c'est intéressant, mais on n'aime pas la voix de Neil. Il y a une voix trop haute, puis c'était pas correct. Il fallait faire chanter ça par d'autres. Donc, finalement, de fil en aiguille, ils ont réussi à se faufiler pas mal.
De fil en aiguille, ils se sont faufilés.
Oui, c'est exactement. C'était prévu. Et ils ont réussi à impressionner un certain Don Kirshner. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose.
Non.
Lui, c'est un producteur. Je ne sais pas comment appeler son nom, là. Mettons qu'il gérait pas mal de patentes. Il travaillait au Brill Building à New York. Et ça, le Brill Building, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que ça me fascinait. C'était un endroit où il y avait à peu près 200 entreprises de musique dans le même bloc. tu avais des locaux où il y avait des auteurs-compositeurs qui travaillaient. Tu avais des musiciens à côté qui les supportaient. Tu avais un studio d'enregistrement pour enregistrer des démos. Tu avais des personnes qui recherchaient des talents, donc on allait frapper à leur porte, disait « Hey, on vient de composer ça, écoutez ça, blablabla. » Tu avais ceux qui avaient les contacts avec des postes de radio. Tu pouvais entrer un matin et écrire une chanson avec quelqu'un, la faire enregistrer par des musiciens, faire presser le disque. Oui, prendre l'ascenseur, aller là. En sortant le soir, les disques étaient prêts à aller porter au poste de radio parce que le contact était déjà fait. Donc, c'était le Brill Building, B-R-I-L-L. Donc, c'était vraiment l'usine à musique, là, à partir de la matière première jusqu'au produit fini. C'était assez impressionnant. Et apparemment que Neil Diamond et Howard Greenfield ont été parmi les premiers...
Neil Diamond?
Neil Diamond. Il n'aurait pas fallu qu'on parle de ça tantôt. Ça va souvent me revenir.
Sedaka.
Neil Sedaka. Ont commencé à travailler là. Ils ont été à peu près les premiers, dans les premiers à travailler comme auteur-compositeur pour fournir du matériel pour d'autres chanteurs, pour d'autres musiciens, tout ça. Et d'ailleurs, dans le building, là, j'ai noté des noms, c'était quand même assez intéressant. Il y avait Burt Bacharach qui travaillait là. Sonny Bono, que vous souvenez, Sonny and Cher. Boyz N Hart, eux autres, ils écrivaient beaucoup de chansons, surtout pour l'émission de Monkees à l'époque. Ça prenait des chansons toutes les semaines.
J'avais déjà fait une chronique là-dessus.
Oui. Et il y avait aussi Neil Diamond, j'ai vu son nom du coin de l'œil. Lui aussi, il travaillait là. Lui aussi, il avait écrit des chansons pour les Monkees. Fait que toute cette entreprise-là, prenait les chansons, on me disait « ça va être bon pour tel artiste, ça va être bon pour tel autre ». Donc, c'était, comme je dis, c'était vraiment un tout. C'est un Brill Building, là. C'était une
c'est
usine.
C'est rare qu'on voit ça.
Oui. Ça ne doit plus exister aujourd'hui. Là, le marché a changé énormément. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et à un moment donné, il a commencé à écrire des chansons qu'il voulait chanter par lui-même et c'était pas toujours facile. Comme je vous disais, là, les producteurs étaient un peu réticents.
Par rapport à sa voix.
Oui, par rapport à sa voix. Il a écrit des chansons pour la chanteuse Connie Francis, Stupid Cupid et puis Where the Boys Are. Qui ont été
chanteuse
des...
country?
Je sais pas trop, country
non?
pop un okay. peu, oui. Parce que Where the Boys Are, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non.
Cette chanson-là avait joué beaucoup. Stupid Cupid aussi. Ouais.
Sûrement quand on l'entend, on dit « Ah oui, OK, oui, je la connais. »
Puis finalement, avec ces succès-là, Neil Sedaka a réussi à convaincre qu'il pouvait peut-être en chanter une ou deux lui aussi. Là, c'est après lui, après tout.
Chanter.
C'est lui qui les écoutait. Donc, ils ont lancé « Oh Carol ». Qui a été un super succès. Donc, il est devenu une vedette du jour au lendemain. Et après ça, il y a quand même plusieurs succès.
Là, ils l'ont laissé chanter.
Ouais, là, ils ont dit, OK, là, on va essayer de pousser un petit peu de ce côté-là. Et juste à partir de 1900, entre 1959 et 1963, il a vendu à peu près 40 millions de disques. Juste dans cette petite période-là. Donc, on peut dire que là, ça venait de décoller. Là.
Je comprends.
On devrait justement écouter des extraits de cette période-là pour comprendre un petit peu, parce qu'il y a des choses que vous allez reconnaître. Moi, j'en ai reconnu quelques-unes. Et vous allez voir que c'était pas pour rien qu'à l'époque, ça sonnait.
Every day. it up is hard to do.
Des vacances, hein?
Ouais,
ouais. Voyage dans le temps. On a reconnu le temps des vacances.
La toune de Pierre Lalonde.
Ben oui, c'est
le temps des vacances.
C'est pas la toune de Pierre Lalonde, c'est la toune de Nils Sedaka.
J'ai appris cette semaine que c'était Nils Sedaka qui avait écrit ça.
C'était la mode à l'époque. Hein?
Oui, c'était la mode. On traduisait, on prenait. D'ailleurs, c'est un détail que j'avais oublié de mentionner au début. Quand il poussait beaucoup pour signer avec une compagnie de disques, souvent il se faisait refuser. Sa chanson, c'était pas assez solide ou n'importe quoi. À un moment donné, il a acheté 3 ou 4 disques, les numéros 1, pas nécessairement du mois, là, mais de d'autres époques aussi. Il les a tous analysés. La structure, les tonalités, les changements d'accords, la mélodie, c'est quoi un hit numéro 1? Oh, il a commencé à travailler
Il
s'est fait une recette. Il a travaillé à partir de ça. Et ça finit par paraître un peu. Ouais. Mais c'était brillant quand même. Le gars veut gagner sa vie en faisant de la musique. Il faut qu'il trouve les bons outils.
Mais son premier grand succès, Daniel, c'est O Carol. Et Carol, c'était-tu le nom de...
Carol King.
Ah, la chanteuse.
J'étais ami avec Carol King.
Ça n'a pas été sa blonde.
Pourtant, ça a été sa blonde, mais pas longtemps. Ouais. Puis je pense que ça lui a laissé une marque assez indélébile.
Ben oui.
Donc, la O Carol, c'est notre
Carol King.
Absolument.
Bon.
Qui travaillait, elle aussi, au Brill Building avec son mari Jerry Goffin, travaillant pas en solo, mais en duo.
Mais il n'a pas fait une chanson au Jerry.
Non, ça, je pense. Elle aurait été plus rough. Donc, il a écrit même à cette époque-là.
Toutes ces chansons-là datent de quelle année?
Ça, c'est tout début. C'est très facile à retrouver. Là. C'est entre 59 et 64. Et devinez pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé en 1964? L'invasion britannique. Les Beatles sont débarqués
en 64, je pensais que c'était en 62.
En 64. Okay. Ils ont fait leur première apparition au Ed Sullivan Show en février 64. Ça a été le tsunami. Tout le monde voulait les Beatles et tout le monde voulait jouer comme les Beatles. Et c'est cette musique-là qu'on voulait entendre. Et là, tout de suite
après... Et rien d'autre.
Là, ça a été l'invasion britannique. Les Rolling Stones sont arrivés, les Kings et toutes les autres. Donc... La petite musique, les petites chansonnettes de Neil Sedaka avec sa petite voix au perché. Là, les producteurs disaient non, ça marche plus, désolé, man. On fait autre chose. Ouais. Donc, il a quand même continué. Il a écrit des chansons pour d'autres à cette époque-là. Je parlais tantôt, Brill Building fournissait des chansons à plusieurs projets, dont l'émission de Monkees. Il a écrit une couple de chansons pour les Monkees. Il en a écrit pour The Fifth Dimension. En tout cas, il a quand même continué à travailler. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de chansons de lui qui ont continué à jouer à la radio, il a continué à faire des spectacles. Parce qu'il avait quand même réussi à se créer vraiment un gros fan club. Et il a continué à faire de la tournée, il a continué à travailler. Et il a même déménagé en Angleterre à un moment donné. Puis il a travaillé beaucoup là-bas parce qu'il y avait, je ne sais pas pourquoi, mais
il
là-bas...
Il était emporté par la vague.
Oui, là-bas, il marchait beaucoup. Donc ici, on avait l'invasion britannique, puis les Britanniques qui écoutaient du Neil Sedaka. Fait que ça l'a aidé beaucoup à continuer. Et ce qui est arrivé, au début des années 70, il a rencontré un monsieur, un Britannique, qui commençait à avoir pas mal de succès, même en Amérique, un monsieur Elton John.
Je connais pas.
Non?
Le nom me dit quelque chose.
Un jeune très prometteur, je vous
dirais. Il semble qu'il s'appelait
Réginald. Ouais. Je pense qu'il s'appelle Cyr, au fond. Mais tout ça pour dire qu'Elton John aimait beaucoup Neil Sedaka, probablement pour son sens de la mélodie, puis tout ça, puis pour le succès qu'il avait eu aussi, bien entendu. Donc, il lui a proposé d'enregistrer un disque en Angleterre sous sa nouvelle compagnie de disques qui était Rocket Records. Donc, il a enregistré un disque qui contenait la chanson qu'on a entendue au début, qui était...
Au Carol?
Non. Quand on a ouvert la chronique, Laughter in the Rain.
Oui.
Qu'on voit que ça sonnait quand même plus années 70, ça sonnait plus années 50.
Mais ben oui, c'est à 75, vous avez dit que c'était...
Oui, 75. Ouais. Donc ça a été un très gros succès. Et ça lui a donné un regain de vie, on peut dire. Il a recommencé à écrire des chansons. Il a commencé même...
C'est une collaboration éphémère avec Elton John?
Oui, d'ailleurs, Elton John, il a fait des back vocals sur une des chansons de cet album-là. Je me souviens pas le titre, je vais l'avoir noté. Bad Blood, il y a une chanson qui s'appelle Bad Blood, qui est devenue numéro 1, Laughter in the Rain aussi. Puis Elton John a fait des vocales. Et ensuite, il a composé...
Elton John, c'est mon choriste.
Ah oui, ça paraît bien quand même. Ça, ça aide un peu à vendre un disque. Et il a fait une chanson aussi qui a été connue, mais plus par un autre groupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70, un groupe, un duo, dans le fond, qui s'appelait Captain and Tony.
Ah oui, oui.
Et c'était quoi la chanson? We'll Keep Us Together. Et c'est une chanson de Neil Sedaka.
Ah, c'était super bon,
c'était
ça!
C'était super bon. Il en a fait une version lui-même, mais c'est celle de Captain and Tony qui est devenue vraiment un gros, gros numéro.
Tu vois
un,
les grands yeux bruns de Captain.
Il y avait un, il y avait un look oui, un peu à l'époque.
Avec la casquette.
La casquette.
Mais du Capitaine.
Ouais. C'était gimmick.
Mais c'est encore bon,
peu.
Cette chanson-là.
Ça, quand ça joue encore, oui, effectivement. C'est le genre de chanson qui fait du bien à entendre.
Faudra la
quand
mettre écoute demain. Ouais, Mathieu, il est crampé, il voit l'image.
Ouais, ils ont un look.
C'est Mario Bros.
Ouais. C'est comme...
On a les références.
Je pense
qu'Angine
de Poitrine avait compris, eux autres, ils ont dit, on va se masquer complètement.
Ah oui.
C'est quand même...
Ouais. Voilà. Quelque chose d'Omar Sharif.
Donc, c'est tout ça pour dire que son sens de la mélodie, il l'avait toujours. Hein. Il avait réussi quand même à faire des choses intéressantes, même pour les autres. Et il y a un petit peu plus tard, quelques années, on est rendu dans les années 90... Et on se souvient qu'il avait une formation de pianiste classique. Donc, il a toujours voulu rester un petit peu proche de la musique classique, même si c'est ce qu'il faisait, c'était toujours de la musique pop. Puis probablement qu'il se faisait critiquer un peu aussi pour ça, qu'il faisait juste de la petite chansonnette pop facile, blablabla. Donc, il a réussi... En 1995, il a lancé un album qui s'appelle... Ça, j'ai de la misère à le dire. Classically...
Vous l'avez dit.
Classically.
Avec Neil Sedaka.
Classically Sedaka. Puis on va en écouter des extraits. Vous allez voir, c'est très différent de ce qu'il fait habituellement.
We'll sail on the sunrise. We'll float among the stars together. Honey of my life, you bring me love, you bring me hope, and high above, the heavens smile their light on me, and I am blessed eternally. That's in my heart. You'll never know how much you mean to me. My everything. Looking back upon the day we met, my love, I'll cherish that magic day. Lie with every look. You've tried once, but it's hopeless. You are underneath his spell now. Steel blue eyes, they melt your heart away. A devil or an angel, I'm not sure I really care now. Good night, my love, good night. You're gently sleeping as I tiptoe through the room. Brings to you and to me.
C'est drôle. Je dis à Daniel, moi, j'écouterais ça en faisant mon ménage. Daniel dit, moi, c'est en étant à l'épicerie, en étant en train de choisir en telle et telle boîte de conserve tomates. Ouais. Et puis Mathieu, il dit, moi, j'écouterais ça dans le trafic. Fait que finalement, on l'écouterait partout.
C'est une musique passe-partout, dans le fond, c'est génial.
Mais c'est quand même particulier, hein, des airs classiques très, très connus sur des paroles de Neil Sedaka.
Ce qu'on a entendu, la première chanson, d'ailleurs, c'est ça, lui, il a mis des paroles sur des pièces classiques. La première chanson, il l'a appelée « Never Ending Serenade ». C'est une pièce de Chopin, nocturne en mi bémol majeur. Ensuite, « Honey of My Life », c'est une pièce de Beethoven, que vous avez reconnu, bien entendu, « Für Elise ». Ensuite, une autre pièce de Frédéric Chopin.
Ouais.
Ensuite, une de Beethoven, la sonate pathétique. Et la dernière, c'était une pièce de Sergei Rachmaninov. Donc,
c'était pas pathétique.
C'était pas pathétique, c'était bien.
C'est une belle découverte.
Donc, Monsieur Neil Sedaka, qui a quand même eu une très belle carrière, il a arrêté d'écrire des chansons en 2002 seulement. Et il avait été hospitalisé à Los Angeles le 27 février 2026 et il est décédé le même jour. Il y a eu un malaise, ils l'ont rentré à l'hôpital.
On va se laisser avec Breaking Up Is Hard to Do.
La version qu'il a refaite, parce que cette chanson-là est devenue numéro un deux fois. L'original et quand il a fait une nouvelle version qui est un peu plus jazzy.
On va écouter quoi? La nouvelle version?
La nouvelle version.
Merci Daniel Lachance, on se retrouve à la fin du mois de mai.
Tell me that you're leaving. I can't believe it's true. Girl, there's just no living without you. Don't take your Don't you leave my heart in misery. 'Cause if you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do. Remember when you held of all that we've been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on, baby. Start anew. Breaking up is hard to do. Breaking up is so hard to do.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je n'entends t'entends plus comme avant, seulement le vent sans océan. J'ai une oreille dans un coquillage et l'autre tournée vers quoi? Danser sans autre inventer, celle des feuilles et des rivières, des oiseaux et de l'amitié.
Que c'est beau, les voix de Willows et de Velours Velours, une chanson tirée de l'album Mamoui Ensemble, un album qui est né du projet Nikamou Mamoui. Alors, l'album vit maintenant sur la scène et ça a été réalisé, cet album, par Hugo Perrault. Et pour parler du projet, de l'album et du spectacle, on joint Willows, qui est métisse de la Rivière-Rouge au Manitoba. C'est un artiste qu'on connaît aussi sous le prénom et le nom de Geneviève Toupin. Bonjour, Willows.
Bonjour.
Est-ce qu'on prononce le S de Willows?
Oui.
OK. Alors, Willows, ça veut dire quoi?
C'est un saule. Ce sont des saules pleureurs.
Ah.
Des arbres que j'adore.
Oui, je vous comprends parce que je les aime beaucoup aussi. Alors, dites-nous, Willows, en quoi consiste le projet intitulé Nikamou Mamuitoun? Qui en fait partie?
On est un collectif d'artistes.
Mm-hmm.
On est plusieurs artistes à en faire partie. Je vais regarder en même temps la photo en vous disant pour oublier personne. Il y a Mariko, Mimi Obansowin, Velour Velour, qui était dans la chanson juste avant, Guillaume Marceneau, Louane Larobina, Paco, Sandrine Masse et Yvan Boivin-Flamand.
Donc, des artistes autochtones et des artistes allochtones. Et c'est un projet qui est né en 2017. Et il y a eu un album qui est sorti à cette époque-là, qui a remporté l'album Un Félix. Et celui-là, ben, j'imagine qu'il va avoir le même sort parce qu'en tout cas, personnellement, je l'ai écouté 3-4 fois au grand complet et je le trouve vraiment magnifique.
Merci.
Et vous l'avez conçu en 5 jours. Moi, je suis assez épatée. Comment on fait ça? Créer un album pendant 5 jours?
Et je ne sais pas comment on a fait. Honnêtement, je n'ai jamais vécu ça avant. C'est assez unique comme contexte. Quand j'y repense, je ne peux pas croire qu'on a réussi à le faire. Parce qu'il faut dire qu'on pas tout le monde se connaissait encore. Fait qu'on est arrivé là avec la première journée. On nous disait, bon, on va essayer de faire toutes les chansons de l'album dans ces 5 jours-là ensemble. Puis moi, j'étais comme, wow, comment qu'on va faire ça?
Ouais, pourquoi 5 jours?
On ne connaît même pas tout, tu sais. Mais ça a super bien été. Il y avait Guillaume Arsenault qui est aussi artiste dans cette cohorte. Il était là aussi avec la première cohorte. Lui est là depuis le début. Mm-hmm. Et il y avait aussi Manuel Gass. Les deux étaient là pour nous guider un peu avec des exercices d'écriture. Et ils nous partaient à chaque matin avec des exercices, puis ils nous jumelaient aussi. Donc, on avait comme des contraintes assez claires et ça aide. Ouais. Quand tu as peu de temps pour créer, c'est bon d'avoir certaines contraintes. Et c'était incroyable parce qu'à la fin de chaque journée, on se partageait ce qu'on avait écrit. Puis c'était tellement inspirant qu'après, on repartait le lendemain, la tête et le cœur remplis de ce qu'on venait d'entendre la veille. Puis on est resté dans cette bulle-là intense de 9 le matin jusqu'à 10, des fois 11 le soir, à écrire et à créer ces chansons-là. Et à la fin, on avait trop de chansons, ce qui est incroyable.
Oui, un beau problème.
Donc, on a pu faire un tri. Puis ça, c'est toujours vraiment le fun quand tu fais un album d'avoir trop de chansons parce que tu finis avec juste
la crème de la crème, oui.
Oui, c'est ça. Fait que ça a été toute une expérience.
Mais pourquoi Willow 5 jours? Est-ce que c'était aussi une contrainte pour que la création se fasse en si peu de temps? C'était quoi l'idée derrière ça?
Moi, je suis pas du côté de l'organisation, donc je sais pas, mais tu sais, on est nombreux.
Ouais.
Fait que il y a des
les horaires
aussi quand on se rassemble. Fait que, et étant donné aussi qu'on est chaque personne dans la cohorte 2 a déjà des carrières solo, a déjà fait au moins un album ou un EP. On a de l'expérience déjà en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Mm-hmm. Donc il y avait peut-être aussi un peu comme bon, on va voir ce qu'on est capable de faire dans ce temps-là. Puis finalement, on a été capable de le faire. Fait que peut-être qu'il y aurait eu plus de temps après si on n'avait pas réussi, mais ça donne qu'on a pu le faire. Fait que c'était tant mieux.
Ah oui, et vous l'avez bien fait. D'ailleurs, il y a une tournée de spectacle. Ça a commencé depuis quelques jours. Comment ça se passe? C'est quoi la réception du public?
Ben, on a fait 2 spectacles officiels. On avait fait une vitrine à rideau, mais ça, c'était plus un extrait.
Ouais.
Là, on a fait 2 spectacles la fin de semaine passée.
À Gatineau. Et à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Exactement. Ouais. On en a 3 autres cette semaine. Ça se passe super bien. Les gens sont... les commentaires sont vraiment positifs. À la fin du spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait comme une période de questions. Donc, on est resté sur scène pour jaser avec le public. Et les gens étaient vraiment curieux. Ils voulaient en savoir plus sur comment on avait fait pour écrire les chansons, aussi le rapport aux langues, parce qu'il y a plusieurs langues autochtones dans le spectacle aussi, donc il y avait beaucoup de questions là-dessus, sur les arrangements. Les gens sont curieux parce qu'on est nombreux sur la scène et on s'accompagne les uns les autres aussi. Fait que ça donne une couleur vraiment particulière, puis le collectif est comme j'ai le goût de dire exploité à son maximum, mais
oui, de la bonne manière.
Oui, il y a vraiment une collaboration. C'est pas juste chacun fait sa tune et retourne dans la loge.
Ouais.
C'est pas ça du tout.
Ah ouais.
On est là tout le long ensemble.
Ah, tout le long. Tous les artistes sont sur la scène du début à la fin.
Oui, oui.
Et vous êtes accompagné de musiciens également?
On a deux musiciens qui sont comme là pour nous accompagner. Le batteur Vincent Carré, excellent batteur, et Emmanuel Gass. Mais des fois aussi, il y avait Jean-Guy qui le remplaçait cette fin de semaine. Et là, son nom de famille m'échappe, je suis désolée. Mais
On le salue, Jean-Guy, il va se reconnaître.
Oui, hey, je m'excuse, je me sens mal. J'ai pas pensé à noter son nom de famille.
Bon, ça va peut-être vous revenir.
Mais il est super bon, puis il était là pour ces deux spectacles-là, mais normalement, ça va être Manuel qui va être là avec nous. Et sinon, le reste, c'est nous qui jouons les autres instruments. Donc, il y a house band, c'est batterie et basse, mais le reste, c'est nous.
Ah oui. Alors, vous êtes des artistes complets. J'ai oublié de dire tantôt que Nikamu Mamuitun signifie chanson rassembleuse.
Oui.
C'est ça. Et Willows, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de ce projet-là? Qu'est-ce que vous en retirez humainement parlant de cette expérience?
Ah, c'est vraiment riche. C'est des amitiés qui se sont tissées. Tout d'abord, c'est vraiment précieux. Ça arrive pas à chaque fois, comme d'avoir des amitiés. Oui, mais là, il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se tisser depuis le début entre nous. Fait que ça, c'est précieux. C'est aussi l'occasion de créer avec des artistes qui ont de plein de différents horizons, de chanter dans plusieurs langues autochtones. Moi, j'aime vraiment ça. Je suis en apprentissage du Métis, qui est une langue de par chez nous, de la nation Métis. Mais la chance de chanter comme en Innu, en Atikamekw, en Wendat, en Abenaki, entre autres.
C'est riche.
C'est merveilleux.
Oui.
C'est vraiment le fun. La chanteuse et la partie de moi qui aime vraiment beaucoup découvrir des nouvelles langues puis chanter dans différentes langues, tellement.
Mais ça aussi, c'est un défi, hein, d'apprendre à chanter une langue qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu.
Mm-hmm.
Oui.
Oui. Et de créer aussi dans une langue j'ai pas écrit des chansons en Atikamekw, je parle pas cette langue-là, mais de soutenir la création puis de laisser la place à la personne qui parle la langue puis de l'aider à de voir comment qu'on peut supporter la création dans les différentes langues par la mélodie ou par la musique, puis il y a beaucoup de respect au travers de tout ce processus-là et beaucoup d'écoute aussi, parce que c'est pas toutes les langues qui... C'est une chose de lire une langue, mais de la mettre en musique, il faut respecter les accents toniques, il faut respecter la mélodie naturelle qui est dans la langue. Et ça, c'est la personne qui parle qui peut te partager comment faire ça. Donc, ça demande beaucoup d'écoute et de respect. Puis ça, c'est vraiment le fun de créer dans un contexte où il y a ça.
Et Willows, est-ce que dans le spectacle, on va finir avec cette dernière question parce qu'on aimerait entendre une autre chanson. Dans le spectacle, est-ce que vous expliquez les chansons avant de les offrir au public?
Pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y a quelque chose qui est dit pour présenter la chanson. Il y a aussi de la poésie qui vient aussi éclairer la chanson d'une autre manière, plus poétique, d'une autre lumière, sous un autre angle, puis ça vient enrichir aussi le spectacle. C'est Alan Côté qui a fait la mise en scène. Donc, souvent, il y a soit un poème ou quelque chose qui est dit pour préparer le public à mieux
recevoir, apprécier.
Oui, ouais. Exactement.
Alors, on vous souhaite des salles pleines au Théâtre Outremont demain, 23 avril, à Montréal. Ensuite, à Sainte-Geneviève, dans la salle Pauline Julien, le 24 avril. Le 25, vous serez au Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Le 21 mai, à Longueuil, au Théâtre de la Ville. 22 mai, à Repentigny. Et ça continue comme ça. Hearst, Sainte-Agathe-des-Monts, Joliette, Sherbrooke. J'en parlais avec Willows de ce beau projet, de cet album et de ce spectacle. Et on va se laisser avec la chanson qui s'intitule « Yawenda ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Willows?
Oui, « Yawenda », ça veut dire « parole ». Donc, c'est une chanson qui parle de la langue, la transmission de la langue. Et avant de terminer, je vais dire que c'est Jean-Guy Leblanc.
Ah oui, vous l'avez retrouvé. C'est super, ça finit bien. Merci, Willows, à la prochaine.
Merci.
Et puis, bon spectacle, bonne tournée.
Merci beaucoup.
Mm-hmm. Mm-hmm. Je tire sur un fil qui apparaît et disparaît, qui me lie à nos grands-mères. La langue me parle, je me tais, je l'écoute. Je l'apprends même si je ne sais pas par où encore. Paix dans la langue que je ne parle pas. Comment te dire que je vais bien? Pour ceux qui viendront et mes parents qui l'ont perdu, je chercherai à comprendre. Yawenda, on yawenda, yeah. Tourbillonne en moi ces mots tissés de nos histoires, ces mots qui prennent racine dans nos territoires. Et puis quand j'oublie, quand je faiblesse, seule forteresse porte ma flamme et puis je porterai la sienne. Yawenda, on yawenda, yeah. Se feront bercer par leur mère au son de nos paroles qui s'étaient endormies. Quand elles résonneront à travers les monts, les rivières, nous pourrons répéter Tiawen Kichi Marsi, Tiawen Kichi Marsi.
On prend des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef de Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
On commence avec une nouvelle tirée de Franco-Presse. La majorité des enfants francophones vont dans des garderies en anglais.
C'est selon une compilation de Statistique Canada, il y aurait 54 % des enfants qui sont admissibles à l'instruction en français à l'extérieur du Québec qui vont finalement dans des garderies de langue anglaise. Donc, plus que la moitié. Il y aurait seulement 35 % des enfants admissibles qui vont dans des services de garde en français. Le reste vont dans des ce qu'on connaît comme des services bilingues. Il y a des différences selon les régions, évidemment. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, bien, le pourcentage est beaucoup plus élevé et fait un peu monter la moyenne nationale. Je crois que dans leur cas, c'est pas loin du 90 %. Il y a plusieurs choses qui influencent ces données-là. Premièrement, il y a le milieu familial. Si les deux parents parlent français, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'ils envoient leur enfant à la garderie francophone. S'il y en a un, c'est un petit peu moins, un peu moins de chance. Et oui, si les deux parlent anglais, bien, c'est beaucoup plus rare, évidemment. Par contre, il y a parfois les parents n'ont pas le choix. La garderie francophone elle peut être justement trop, tout simplement trop loin pour les besoins, pour que ce soit pratique d'envoyer leur enfant à la garderie en français. Donc, on choisit la garderie plus proche qui est en anglais. De plus, même si on dit dans les données qu'on a remarqué une augmentation importante du nombre de travailleurs francophones dans les garderies, mais ça ne s'est pas nécessairement transformé en place supplémentaire en français. Ça peut être dû au financement qui ne vient pas ou à la volonté même des garderies de créer des places en français. Pourtant, on le sait, la garderie, c'est le point de départ de l'éducation. Hein? 93 % des enfants qui vont à la garderie en français continuent leur école primaire en français. Pour ceux qui vont à la garderie en anglais, c'est seulement 30 % qui continuent leur éducation primaire en français. Donc, pour les communautés francophones hors Québec, ben, c'est un enjeu important. C'est la base de ce qu'on appelle le continuum de l'éducation en français.
Dans la voie acadienne, maintenant, un député francophone de l'Île-du-Prince-Édouard au centre d'une tourmente déontologique.
Oui, je parle d'une situation qui est secoue un peu la communauté francophone de l'île du Prince-Édouard. Ça concerne le député francophone Gilles Arsenault, qui était jusqu'à tout récemment ministre des Affaires acadiennes et francophones, entre autres. Il y avait plusieurs postes de ministre, mais pour la communauté francophone, c'était le point important. Il a été expulsé du caucus du Parti conservateur par le premier ministre. Ça a pris quelques jours avant que les médias aient les détails de ce qui se passait. Finalement, ce qu'ils ont pu apprendre, c'est que le député aurait commis plusieurs erreurs de jugement graves, selon le premier ministre de l'Île du Prince-Édouard, Rod Lens. Il aurait autorisé des modifications à un permis sans suivre les procédures habituelles lorsqu'il était ministre de l'Environnement. En gros, ça c'est en 2024 que c'est arrivé. Il aurait donné une autorisation et une modification de permis verbalement au lieu de suivre les processus écrits. De plus, l'entrepreneur qui faisait le travail, qui demandait la dérogation, aurait fait un don à un organisme sans but lucratif duquel M. Arsenault est très proche. Sur Facebook, le député s'est défendu. Il dit qu'il respecte et comprend la décision du premier ministre, mais il défend s'être mis en conflit d'intérêts. Pour lui, la modification du permis et le don étaient deux choses complètement séparées. Par contre, ce qu'on a pu comprendre aussi, c'est que de son côté, la compagnie qui a fait le don et qui demandait la dérogation, pour elle, les deux étaient reliés, ils ne voyaient pas les choses de la même façon. De plus, M. Arsenault, il était très proche de l'organisme choisi, comme je vous disais. Il y a un professeur de sciences politiques de l'Université de l'Île du Prince-Édouard qui dit qu'il est peu surpris que le premier ministre ait expulsé M. Arsenault du caucus, mais il se serait attendu à ce qu'il lui donne la chance de démissionner pour sauver un peu plus sa réputation. On va sûrement en entendre parler parce que la Gendarmerie royale du Canada enquête sur les allégations.
Une histoire à suivre. Par ailleurs, l'Ontario français a un tournant face à son avenir. On en parle dans Le goût de vivre.
Oui, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario est en mode de consultation depuis quelques semaines. Puis Le goût de vivre nous en parle parce que l'Assemblée était à Penetanguishene dans leur région il y a quelques jours pour son deuxième arrêt dans cette tournée de consultation-là. Le processus a commencé en réalité l'année dernière quand l'Assemblée a publié un livre vert vers référence aux couleurs du drapeau franco-ontarien, où on fait plusieurs constats. Bon, on rappelle que l'Ontario compte 652 000 francophones, ce qui représente 4,6 % de la population, mais c'est un point de pourcentage de moins qu'en 1991, même si le nombre total de francophones a augmenté. Ce qu'on veut donc avec ces consultations-là, c'est réfléchir à l'avenir de la francophonie. Un des points principaux que veut aborder l'Assemblée lors des consultations, c'est l'intégration des immigrants. On veut, pour revenir à un poids démographique autour de 6 % comme le demande aussi la loi sur les langues officielles, il faut incorporer ces immigrants-là. On vise aussi à cultiver le sentiment d'appartenance, les services en français, puis la structure et la coordination de la gouvernance en français. Il va y avoir un total de 25 consultations tout au long de l'année de ce genre-là. Ça va permettre de produire un rapport qui va mener aux États généraux de l'Ontario français en 2029.
Le français est-il comme une langue étrangère dans les librairies vancouveroises? Telle est la question que pose la source.
Exactement. En fait, le constat est assez simple. Il n'y en a plus de librairies uniquement francophones à Vancouver.
Ah,
c'est un phénomène que l'éditeur des éditions du Pacific West, les éditions du Pacifique Nord-Ouest, Louis Anquetil, suit de près. Avec le prix des loyers et le fait que les francophones sont pas mal dispersés dans la ville de Vancouver, il comprend bien que c'est difficile et même impossible de tenir une boutique de livres avec un pignon sur rue ouverte. Mais il voit que l'intérêt pour la lecture en français, elle, n'a pas diminué. Il a même vu un certain regain depuis la pandémie. Pour lui, c'est pas nécessairement l'absence d'endroit pour acheter des livres qui pose un problème. C'est plutôt l'absence d'un lieu pour se rassembler, discuter et vivre sa culture. C'est pour ça que les salons du livre ou des festivals en lien avec l'écriture et la lecture ont un rôle essentiel à jouer pour offrir ces espaces-là. Il y a quand même un peu de livres en français dans les librairies anglophones de Vancouver, là, mais c'est pas une grande offre. La seule exception aussi en Colombie-Britannique, c'est dans la ville de Victoria, où il y a la librairie Côte-Ouest qui est encore ouverte. C'est surtout apparemment grâce à une petite communauté de lecteurs qui est bien établie et très fidèle et très active. On réussit aussi à vendre des livres par la poste à d'autres communautés de la région.
Bon, au moins, on en trouve dans la capitale, mais il faudrait qu'il y en ait plus.
Oui.
Inuvik met fin à son programme d'immersion française au primaire pour terminer cette chronique.
Oui, le Kinon nous parle de ça. Inuvik, pour vous situer, là, c'est une petite municipalité d'environ 3000 habitants qui est très au nord-ouest des territoires du nord-ouest. Là, c'est proche du Yukon, pas loin du fleuve Mackenzie, puis on est presque rendu dans la mer de Beaufort et l'océan Arctique. Là. C'est très au nord. En citant des raisons de baisse d'effectifs puis de contraintes liées aux ressources et au financement fédéral, le conseil scolaire de la région a annoncé la fin du programme d'immersion à l'école élémentaire d'Inuvik. C'est le seul endroit dans la ville où on pouvait recevoir une éducation en français parce qu'il n'y a pas d'école uniquement francophone à Inuvik. On coupe pas tout. À partir de la rentrée de septembre, les élèves qui le veulent vont quand même pouvoir suivre environ 10 minutes de cours en français, des cours de français et de sciences humaines en français. Les mathématiques, les sciences et les autres matières vont être enseignées en anglais. La Fédération franco-tainoise est très inquiète du changement. Elle affirme que c'est un recul important pour le français dans les territoires du Nord-Ouest. Elle rappelle aussi qu'on attend une croissance économique et démographique dans la région due aux annonces de financement du fédéral là, pour le Nord et la Défense. Donc, on comprend mal. Mais on dit plutôt que ce recul-là va empêcher d'attirer plus de francophones dans la ville. Du côté du ministère de l'Éducation du territoire, on ne peut pas vraiment s'en mêler. La décision revient au conseil scolaire. Puis l'Aquilon n'a pas réussi à obtenir de réponses ou d'entrevues avec le conseil, donc on n'a pas plus de détails.
Bon, alors si vous en avez d'autres, plus de détails, vous nous les communiquerez.
Absolument, ça va me faire plaisir.
Merci, Julien.
Bonne journée.
Fellini, mais c'est du Michel Rivard. C'est une musique instrumentale qu'on trouve sur son plus récent album Après, on va où? On va peut-être entendre cette musique lors de son spectacle dont la première aura lieu la semaine prochaine. Merci tout le monde, on se retrouve demain.